Stéphanie Wenker.
Bonsoir. La ville de Neuchâtel se dote d'une nouvelle offre hôtelière. Le Neuchâtel City Hotel a ouvert ses portes la semaine dernière au centre-ville. L'établissement vise une clientèle au budget limité. Plus de 3400 signatures pour le vélo à fond. Le comité citoyen Chaudefonnier, qui souhaite améliorer les conditions des utilisateurs des deux roues non motorisées, a déposé son initiative communale ce matin. Du côté des Jeux Olympiques, les cavaliers suisses ont pris la porte en saut d'obstacle individuel aujourd'hui. Côté athlétisme, les relayeuses suisses sont prêtes à entrer en lice la nuit prochaine. Les nuages devraient encore être de la partie demain matin avant, on espère, l'arrivée du soleil dans l'après-midi. Les anciens locaux de l'école hôtelière à Neuchâtel ont trouvé preneur. Le Neuchâtel City Hotel a ouvert ses portes la semaine dernière à l'avenue de la Gare. Une centaine de chambres et des salles de conférence font partie de l'offre. Un restaurant va également intégrer le complexe dès le mois d'octobre. Avec des chambres entre 90 et 130 francs la nuit, les dirigeants de l'établissement visent une clientèle de tourisme et d'affaires au budget limité. L'hôtel appartient à un groupe français, Loisirs Côté Vacances. Plusieurs éléments ont convaincu les responsables de s'installer dans la région. Les explications de Thibaut Quintin, directeur marketing du Neuchâtel City Hotel.
Tout d'abord pour l'environnement, puisqu'on a ici une multitude d'activités, que ce soit fluvial, que ce soit en rapport avec les sports d'hiver. On a aussi un fort dynamisme économique ici qui est porté par différents sièges d'entreprise. On va trouver de tous les domaines, que ce soit médical, pharmaceutique, que ce soit technologique. On va avoir beaucoup de choses ici. Donc ce dynamisme-là, c'est vrai qu'il nous a motivés à venir sur Neuchâtel. Et puis on a aussi tout le côté, si je puis dire, un petit peu plus atypique, c'est-à-dire une architecture qui est vraiment intéressante, une ville jeune, une ville qui bouge avec des activités. Donc c'est vrai que nous, c'est tout à fait quelque chose qui correspond à ce qu'on recherchait.
Vous avez fait relativement peu de communication en arrivant. En tout cas, Neuchâtel Tourisme a appris assez tard votre arrivée. Il n'y a pas eu de conférence de presse. C'est pas important de vous faire connaître quand vous arrivez?
Bien sûr, c'est très important. C'est vrai qu'on a eu des délais assez courts entre le moment où on savait qu'on allait prendre en gestion le dossier et le moment de l'ouverture. Il s'est passé un mois et demi et pour nous, c'était vraiment important de ne pas passer à côté de la saison estivale. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu mis de côté tout ce qui est marketing et communication pour vraiment se concentrer sur l'ouverture de l'établissement et être au point au niveau opérationnel. Mais dès maintenant, on va commencer justement à mener des campagnes publicitaires, à se présenter et à faire en sorte de pouvoir créer des synergies intéressantes avec tous les acteurs de Neuchâtel.
Des propos recueillis par Aude Raymondi. Contacté, touriste neuchâtelois salue l'arrivée de cet établissement en soulignant que des chambres pour budget limité manquaient à Neuchâtel. Et de son côté, la présidente du conseil communal, Violaine Blétry de Montmolin, se réjouit que l'immense bâtiment soit à nouveau occupé. Pour une meilleure accessibilité aux produits menstruels, les jeunes partis de gauche du canton de Neuchâtel lancent une motion populaire en faveur d'une meilleure accessibilité aux produits hygiéniques menstruels. Les groupes politiques expriment que ces protections hygiéniques doivent être considérées comme un bien de première nécessité. Pédaler plus simplement et en sécurité à La Chaux-de-Fonds, l'initiative communale Le Vélo à fond a abouti. Le comité citoyen a déposé 3408 signatures vérifiées ce matin à la chancellerie, alors que 2920 étaient nécessaires. Le texte demande notamment de nouveaux aménagements pour créer une vraie culture du vélo dans la métropole horlogère. Pour y arriver, le texte réclame l'instauration d'un budget annuel dédié à la cause de la petite reine et de ses utilisateurs. Membre du comité, Patrick Erard souligne que cette initiative a été bien reçue par la population chaudefonnière.
Ça s'est passé de manière très positive, dans la mesure où les gens accueillaient cette initiative avec bienveillance. On a bien sûr eu quelques refus, mais ils étaient plutôt rares. La difficulté, c'était que nous étions en situation pandémique, avec une coupure au milieu, donc certaines personnes ne se souvenaient plus forcément d'avoir signé, mais globalement, un très bon accueil.
Lorsque vous êtes allé au contact de la population, il y avait des souhaits particuliers de la part des citoyens chaudefonniers?
Alors oui, un des souhaits particuliers, c'est d'abord que la circulation des cyclistes soit sécurisée, c'est sûr, mais surtout qu'il y ait aussi moins de monde sur les trottoirs, parce qu'il y a des personnes qui trouvent ça très détestable. Effectivement, avec des pistes cyclables, des bandes cyclables, une meilleure mobilité douce, on évitera ce genre de situation.
On parle donc d'un réseau continu, d'une voie cyclable non interrompue.
Alors l'idée c'est ça, imaginez une autoroute qui s'interrompt pour, une route cantonale, un chemin vicinal, puis qui redevient une autoroute. Les cyclistes, on vit ça de manière continue à La Chaux-de-Fonds. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est véritablement que le cheminement soit facilité et qu'il n'y ait pas d'interruption continue.
Des propos recueillis par Jean-Paul Pichier. Le Latinium, dernier témoignage du travail de Michel Egloff, le fondateur du musée d'Autrive et ancien archéologue cantonal, est décédé la semaine passée à l'âge de 80 ans. Le rôle de Michel Egloff a été crucial pour le développement de l'archéologie dans le canton. Arrivé en 1969 à Neuchâtel, ce passionné lance alors de grands travaux sur des sites neuchâtelois. Certains sont aujourd'hui devenus des sites de référence nationaux et internationaux. Ses recherches avaient un but, développer un musée. En créant le Latinium en 2001, Michel Egloff aboutit donc son projet. Les détails avec Marc-Antoine Kayser, l'actuel directeur du Latinium.
Le Latinium témoigne de ce qui reste de Michel Egloff, parce que disons que ce n'est pas qu'un musée, c'est aussi des collections d'une richesse phénoménale. C'est une masse de savoir et de connaissances qui a été réunie par toutes les équipes. Et c'est évidemment quelque chose de très inspirant pour l'avenir, parce que je crois qu'une chose extrêmement importante, c'est de ne pas considérer ça comme, on va dire, un aboutissement sur lequel on pourrait s'asseoir. C'est un outil qui nous permet à nous d'explorer des nouvelles voies dans notre compréhension de l'archéologie et du patrimoine, ce qui peut intéresser le public, mais aussi pour mes collègues archéologues sur le terrain. Sur ces bases extrêmement solides, ça leur permet de développer des nouvelles recherches tout à fait innovantes, précisément en s'appuyant sur ces bases qu'on a là. C'est quelque chose qui a été conçu pour être vivant et en fait, c'est appelé à se développer, à évoluer. Lui, il passait régulièrement ici. On voyait que c'était ça qu'il attendait.
Et vous pouvez retrouver une interview plus détaillée de Marc-Antoine Kayser, le directeur du Latinium, sur notre site internet rtn.ch. Un nouveau-né a été déposé dans la boîte à bébé d'un hôpital de Berne. Le petit garçon est en bonne santé, a annoncé l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte aujourd'hui. Il est né quelques jours avant d'avoir été déposé anonymement. Il restera encore à l'hôpital pour des examens médicaux complémentaires. La Suisse se situe dans la moyenne européenne pour ce qui est de la surmortalité durant la pandémie de coronavirus. Des chercheurs allemands et israéliens ont comparé les chiffres de plus d'une centaine de pays. La surmortalité a atteint 13% en Suisse, un chiffre similaire à l'Autriche, la Belgique, la France ou encore les Pays-Bas. L'Allemagne s'en sort particulièrement bien avec 5% de décès de plus qu'attendu. En Europe de l'Est, la hausse se situe entre 22 et 37%. À l'inverse, certains pays enregistrent moins de morts que prévu, par exemple au Danemark, en Finlande, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande, qui affichent une baisse entre 1 et 6%. Durcissement des restrictions de voyage pour les ressortissants chinois. Pour éviter des contaminations supplémentaires, le pays a décidé de limiter les déplacements, sauf raison impérieuse. La durée de ces suspensions n'est pas connue. La pandémie de coronavirus a repris depuis quelques semaines sur le territoire chinois. Les services d'immigration vont donc temporairement cesser de délivrer des passeports et d'autres documents nécessaires pour les déplacements à l'étranger.
RTN 18h09.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Après Steve Gerda, les autres cavaliers suisses ont aussi bu la tasse à Tokyo. Le Zurichois Martin Fuchs sur Clooney et le Schaffhouseois Beat Mendley qui montait de Sarri ont manqué le coche dans l'épreuve individuelle de saut d'obstacle remportée en barrage par le Britannique Ben Maher. Beat Mendley n'est pas allé au bout de son parcours après avoir commis deux fautes. Martin Fuchs semblait lui bien lancé pour signer un sans faute, mais il est finalement parti à la faute sur les deux derniers obstacles, ne se qualifiant pas pour le barrage. Écoutez la réaction de Martin Fuchs.
Moi je parle Clooney, il était super, il était dans une très très bonne forme, il sautait fantastique. Sur l'avant-dernier c'était une ligne avec 5 foulées un peu longues ou 6 foulées courtes. Quand j'ai sauté la palanque, il a sauté très très respectueux, un peu comme ça. Je pense que ça va être trop long avec les 5, j'ai repris, j'ai remis une foulée. J'ai fait les 6e foulée mais j'étais trop près sur l'avant-dernier obstacle. J'ai fait une faute et après pour le dernier, j'ai juste poussé pour le temps parce que de toute façon, je savais avec 4 points, ça aide rien si je suis trop long. Alors, ouais.
La déception est grande pour la Suisse qui reste donc bredouille en individuel alors que Steve Gerda avait même échoué hier à se qualifier pour la finale. Le chef d'équipe trouve tout de même positif au point de vue de l'épreuve par équipe avec l'état de forme dans lequel se trouvent les chevaux. Écoutez Michel Sorgue.
Qui n'arrive pas comme ça de vrai, et bah évidemment, on ne va pas vous le cacher. On est tous déçus, il y avait des espoirs. Et bah, il n'y aura pas de médaille pour les Suisses en individuel, mais on va regarder en avant. On est une équipe forte. On a vu que Evenard et Clooney sautaient très bien. 22 n'a pas pris part aux épreuves individuelles. Du coup, pour le par équipe, elle sera aussi dans de bonnes dispositions. Donc maintenant, ça ne sert à rien de regarder derrière, c'est fait. On n'aura pas de médaille individuelle et on veut regarder devant et espérons rentrer avec un métal.
Un dossier préparé par notre envoyé spécial aux Jeux Olympiques, Émilie Mumenthaler. Les Suisses seront de retour vendredi au parc équestre de Tokyo. Martin Fuchs, le Neuchâtelois Brian Balziger et le Jurassien Steve Gerda tenteront de se qualifier pour la finale du concours par équipe de samedi. Les relayeurs suisses dans les starting blocks, Ricarda Dice, Alia Del Ponte, Mujiga Kambuji et Salomé Kora vont disputer les séries du 4x100 mètres la nuit prochaine. Ce sera dès 3h du matin, heure suisse. L'objectif de médaille est déclaré haut et fort. Il est encore plus légitime après les performances individuelles de Mujiga Kambuji et Alia Del Ponte durant ces Jeux. La Tessinoise partira en deuxième position lors de cette course, Alia Del Ponte.
Je pense que ces dernières années, c'était assez normal que je sois au 1. J'étais quand même la fille qui avait un peu moins d'expérience pour le relais. Et c'était aussi une des moins rapides. Et donc, je pense que c'était un peu dans la tête de tout le monde qu'il y ait un peu une évolution aussi pour moi de ma position dans ce relais. Je suis très contente que Raphaël me fasse confiance avec cette deuxième position qui est très importante. Ça me plaît, c'est quelque chose que j'avais fait en 2014 en U20, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas couru en ligne droite. Et je pense que techniquement et aussi au niveau de la performance, je peux aider l'équipe où on m'a mis. Et donc je suis prête à faire mon mieux aussi de la deuxième position et pas au départ.
Et puis le relais du 4x400 mètres est composé de Léa Sprunger, Silke Elements, Rachel Pello et Yasmin Giger. Il entrera lui en lice demain dès 19h25 pour les séries. En beach volley, Johanna Heydrich et Anouk Verger-Després vont smasher pour une médaille olympique. La Zurichoise et la Bernoise disputeront la demi-finale du tournoi de beach volley la nuit prochaine à Tokyo. Elles feront face aux Américaines April Ross et Alix Kleinmann dès 2h du matin, heure suisse. Le duo qui s'inclinera aura encore une chance de médaille avec le match pour le bronze. Enfin, Petra Klingler ne participera pas à la première finale olympique d'escalade. La Zurichoise de 29 ans a terminé au 16e rang des qualifications alors qu'il fallait être dans le top 8. Belle soirée à toutes et à tous.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
18h13 sur RTN.
La météo avec Viteos, votre expert pour vos solutions énergétiques et écologiques. Viteos, du soleil dans votre vie.
Les prévisions sont plutôt à l'amélioration. C'est difficile de faire pire qu'aujourd'hui avec la flotte et 13 à 16 degrés. 15 à 20 degrés demain avec encore de la pluie le matin, mais des éclaircies dès l'après-midi. Vendredi, ça s'améliore encore un peu. 18 à 22 degrés avec peut-être encore quelques pluies le long des reliefs. Samedi, ça s'améliore encore un tout petit peu, mais c'est surtout dimanche, à partir de dimanche, j'ai envie de dire, que l'on va voir la différence. Et pour le début de la semaine prochaine, avec des températures qui pourraient redevenir estivales.
La météo avec Viteos, votre expert en énergie solaire, pompe à chaleur et installation électrique. Viteos, du soleil dans votre vie.